Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Yann Sordet. Bonjour Yann.
Bonjour Étienne.
Vous êtes le directeur des bibliothèques de l'Institut et de la bibliothèque Mazarine. Nous allons commencer une série sur les lettres, mais pas les lettres dans le style de la littérature, les lettres comme objets.
Je dis que les temps ont bien changé, mais ce qui a surtout changé, c'est ton vocabulaire.
On n'y pense pas assez souvent. La forme des lettres peut avoir une influence sur notre perception, en particulier une perception politique. On parle de lettres et politique, ça vous va ?
Très bien.
L'alphabet qu'on nous avait appris à l'école a pris un autre sens.
Alors peut-être qu'on peut commencer par quelque chose qui est un tout petit peu hors sujet. Dites-nous quelques mots sur l'influence de la typographie de Gutenberg sur la religion, sur la prise de pouvoir de la réforme.
L'imprimerie, cette nouvelle technologie de transmission et de diffusion des textes, nous la devons à Gutenberg et à deux de ses associés. Pierre Schaeffer, qui était un expert de la lettre, justement, il était copiste, il était universitaire. Et puis Jean Fust, qui était banquier et qui a assuré la mise de fonds, qui a, lui, anticipé l'imprimerie comme un modèle économique. On est au milieu du XVe siècle, dans les années 1440-1450, le long du Rhin, voilà, à Mayence, très précisément, puisque c'est à Mayence que l'invention va cristalliser, va se mettre en forme. Il y a les prémices de la réforme à la fin du XVe siècle, mais la réforme, elle va surgir, elle va exploser dans le monde occidental, en Europe, à partir de 1517, hein, au moment où Luther va proclamer ses 95 thèses. Mais vous avez raison de dire que la réforme a représenté un moment de prise de conscience. C'est une déflagration dans le sens aussi où c'est une prise de conscience de l'importance de la typographie pour la structuration et pour la diffusion de la réforme. La plupart des historiens pensent que la réforme aurait pu certes naître, mais ensuite se tarir et ne pas connaître l'expansion formidable qui a été la sienne si elle n'avait pas disposé de cet outil formidable. Et Luther en était bien conscient. Pour Luther, l'imprimerie, c'est le dernier, l'ultime, le dernier don de Dieu à l'humanité qui va enclencher cette dernière révolution. Donc l'imprimé, la technologie imprimée et donc la forme du signe typographique n'était absolument pas indifférente aux yeux de Luther qui travaillait main dans la main avec un certain nombre d'imprimeurs allemands.
Alors c'est pas tout à fait politique.
Oui, si, parce que la réforme est aussi une rupture politique. Elle s'appuie aussi sur des États. Puis vous savez que cette fracture religieuse entre le monde romain catholique et le monde réformé, aussi bien luthérien que calviniste, va décider des plus importantes des guerres de l'Ancien Régime. Pas seulement au XVIe siècle avec les guerres de religion, mais lors de la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, qui est en quelque sorte une première guerre mondiale.
À présent que notre société utilise des mots nouveaux, tragiques et surprenants.
J'aimerais qu'on discute maintenant plus précisément des polices de caractère qui ont une influence sur notre perception de la politique. Quel pourrait être le premier exemple auquel on pourrait penser ?
Alors, l'investissement du monde de la typographie, du monde des lettres et du monde du design typographique, cet investissement par la politique, je crois qu'on peut le dater de la première moitié du XVIe siècle. Il y a un moment qui est extrêmement important, donc on se situe entre les années 1510 et les années 1530-1540. Là, il y a un choix qui est fait par la monarchie française d'investir massivement dans une forme de lettres qui est celle des lettres romaines. Ces lettres romaines qui renvoient indirectement à l'Antiquité romaine, mais qui sont le fruit d'une évolution que nous devons aux humanistes en Italie au XIVe puis au XVe siècle. Cette lettre romaine, cette lettre à l'antique, littera antiqua, on disait, s'oppose avec une évidence claire à l'œil, elle s'oppose aux lettres gothiques. Parce que la typographie gothique et les lettres gothiques dominent du Moyen-Âge, enfin depuis le XIIe siècle, juste très largement jusqu'au début du XVIe siècle. On considère que la typographie gothique, c'est typographie un peu fracturée, anguleuse, difficilement lisible pour nous, mais infiniment plus lisible pour un lecteur moyen ou un lecteur ordinaire au 15e, 16e siècle que la lettre romaine. Hein, ça, c'est quelque chose de très important. En tout cas, cette typographie gothique, c'est celle de 70% des incunables. Hein. Les incunables, ce sont tous les livres qui ont été imprimés entre Gutenberg et le début du 16e siècle, environ 30 000 éditions, 70 à 75% de ces éditions sont en typographie gothique. En tout cas, l'Europe est essentiellement, du point de vue des lettres, un monde gothique au XVe siècle et au début du XVIe siècle. Mais François Ier, dont vous savez l'intérêt qu'il porte à l'humanisme, à l'intérêt qu'il porte à la Renaissance italienne...
Il nomme un imprimeur royal.
Voilà, effectivement, hein, il va aussi définir et identifier des imprimeurs royaux. François Ier s'est entouré d'un certain nombre d'intellectuels, de savants, d'artistes, d'imprimeurs. Et ce monde que nous connaissons aujourd'hui relativement bien, autour du jeune roi, il y a François Desmoulins, qui a été son précepteur, qui est un pédagogue, qui est un enseignant... Il y a eu aussi un lecteur royal, Jacques Collin. Les lecteurs royaux, ce sont les lecteurs du Collège royal, du Collège de France. François Ier, c'est aussi les origines du Collège de France. Et il y a aussi des imprimeurs, Robert Estienne, Geoffroy Thory, dont nous reparlerons sans doute un petit peu.
Il en a fait brûler un ou deux.
Oui, c'est vrai aussi, mais justement parce qu'ils avaient eu le mauvais goût de passer à la réforme.
Comment ça s'appelle ? Dolé, c'est ça ?
Oui, absolument.
Dolé qui a été brûlé sur la place Maubert. Hein.
J'ai appris mon nouvel alphabet en lisant les manchettes de vos journaux. Et les inscriptions écrites sur vos murs, c'est l'alphabet de ma génération.
Ce petit monde décide que la lettre française, désormais, la lettre qui aura vocation à diffuser les textes du Royaume de France et aussi la littérature du Royaume de France, eh bien, c'est désormais la lettre romaine. On va abandonner volontairement, explicitement les typographies gothiques et on va faire le choix de cette lettre-là pour diffuser non seulement donc les textes latins, mais cette langue française dont on pose aussi la légitimité. Hein. Ordonnance de Villers-Cotterêts, hein, donc vous le savez, et puis 1539, et puis quelques temps après, 1547, la défense et illustration de la langue française. Et donc, désormais, c'est cette lettre romaine qui vient d'Italie, c'est cette lettre à l'antique, sans ses cassures, sans cette densité, cet aspect noir, hein, le gothique, c'est la black letter en anglais, qui va être privilégiée par la France. Alors même, et là est la politique, alors même qu'au nord, de l'autre côté du Rhin, dans le monde germanique, l'ensemble des communautés urbaines allemande et l'empereur d'Allemagne font le choix, un choix très durable, de maintenir le gothique. Et il y a vraiment, de part et d'autre de cette fracture, une évidence et la volonté de porter une identité graphique qui va se singulariser.
À peu près comme ceci. Ah, parce que tu es mon ami. P pour la bombe et pour bar. C pour la cruauté.
Sautons quelques siècles, puisque vous parlez du gothique et de l'Allemagne, ça va durer jusqu'à Hitler, jusqu'aux nazis. Racontez-nous cette histoire qui est assez stupéfiante.
Hein. Cette typographie gothique dans ses différentes formes, sous-formes pourrait-on dire, et variations, c'est la lettre de l'Europe du Nord, c'est la lettre des langues et des pays germaniques. Elle est aussi massivement utilisée au 19e, au 20e siècle, notamment par tout le monde académique allemand et germanique au sens large, hein, les thèses universitaires, les publications savantes, etc. L'une de ces typographies gothiques, on l'appelle aussi la fracture, hein, fracture parce que fracturée, anguleuse, etc., avec toute une série de brisures. Il y a l'une de ces lettres qu'on appelle la lettre Schwabacher, dont on ignore un peu l'origine du nom. C'est peut-être une lettre qui doit son nom à la ville de Schwabach. Bon, en tout cas, cette lettre Schwabacher, qui à l'œil manifeste la germanité, elle va être rejetée par le nazisme, qui va considérer que c'est une typographie qui a été imposée au monde allemand, au monde germanique, par des communautés juives. On va reprocher, le Troisième Reich et le Parti national-socialiste vont reprocher à cette lettre Schwabacher son identité judaïque.
Mais ce qui est tout à fait erroné.
Oui, c'est erroné. C'est erroné, ça ne repose pas sur une démonstration d'historien du livre ou d'historien de la typographie. Et il y a une interdiction, je crois qu'en 1941, il y a un arrêt, hein, il y a une réglementation, il y a des dispositions juridiques qui bannissent du périmètre du Troisième Reich le recours à cette lettre Schwabacher.
Ce que je ne comprends pas quand même, c'est qu'en Allemagne, même nazie, il y avait de grands intellectuels qui connaissaient cette histoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une espèce de volonté de se rapprocher du reste de l'Europe d'un point de vue écriture, d'un point de vue culturel?
Il y a surtout la volonté d'une rupture, hein, pour le coup. Et c'est vrai que la lettre que va privilégier le nazisme est plutôt une lettre linéale avec peu d'empattement, plutôt moderne. Il y a une espèce de modernisme, de futurisme entre guillemets qui a existé aussi dans le monde fasciste. Il y a eu un investissement du futurisme typographique, il y a un souci de modernisme, c'est une lettre qui est rapide, qui s'expose facilement dans l'espace public, qui a vocation à, bien sûr, peupler le livre qui fait l'objet d'une lecture individuelle, personnelle, mais aussi à s'exposer assez naturellement sur de grands étendards, sur des grandes surfaces. Et vous savez que l'affichage public, l'expression publique du slogan font partie de la rhétorique graphique.
C'est pour la cruauté. D, c'est pour le divorce, le dégoût, la douleur. Eux, ce sont mes ennemis. F, c'est notre folie, c'est le mal d'aujourd'hui. J'ai horreur du gaspillage et des grandes gueules. H pour hijacking et pour hypocrisie. I, c'est pour tes insultes et pour tes idioties.
Vous avez fait sauter 5 siècles d'un coup, et dans ces 5 siècles, s'est passé beaucoup de choses sur les lettres de nature politique. Donc, on a évoqué tout à l'heure notre chouchou, Tory.
Geoffroy Tory, c'est un type assez formidable. Il appartient à ce monde des imprimeurs libraires, et il appartient à ce milieu qui a accompagné François Ier et qui a accompagné la monarchie française dans cette révolution graphique, non seulement du point de vue typographique, en privilégiant la lettre romaine à l'antique, mais aussi en travaillant à ce qu'on appelle l'orthotypographie, à faire évoluer la typographie et le dessin des lettres pour les rendre parfaitement efficace pour l'expression de la langue française. Et ça, c'est important parce que la typographie, Gutenberg et ses associés, ça a été conçu pour une langue bien précise, le latin. Parce que la Bible de Gutenberg, elle est imprimée en latin. Et ça n'est que progressivement que cette technologie et que ces signes vont être adaptés aux autres langues. Au grec, ça ne va pas être facile. À l'hébreu non plus. L'arménien, n'en parlons pas. C'est-à-dire, la solution va être trouvée. Et au français, finalement, à la langue française, l'adaptation n'est pas si évidente que ça, parce qu'il manque toute une série de choses. Le français se développe, et la lettre E dans le français, la lettre E, ça peut être un accent grave, un accent circonflexe, un accent aigu, ce sont des variations qui n'existent pas dans le latin. Le français, c'est aussi l'apostrophe, le L apostrophe, par exemple, ou le D apostrophe. Le français, c'est aussi le C cédillé, cette cédille. Donc, il faut inventer toute une série de signes, et ces signes, il faut les légitimer leur présence dans le matériel typographique. Et Geoffroy Tory va jouer un très grand rôle, et tout ce travail que va conduire Geoffroy Tory, il va lui donner forme dans un très beau livre qui est Le Champ Fleuri.
Magnifique livre.
Voilà, imprimé en 1529.
Dites-moi quelques mots sur le Romain du Roi.
Ah, le Romain du Roi, Étienne, je sais que c'est votre chouchou.
Exactement.
Parce que le Romain du Roi, c'est un caractère qui doit beaucoup à l'Académie des sciences. Mais vous avez vraiment raison de l'évoquer dans le cadre de cet échange, parce que le Romain du Roi est aussi le fruit d'une manifestation du politique dans le champ de la typographie. On est à la fin du XVIIe siècle, le dernier temps du règne de Louis XIV. On est dans les années 1690. Les imprimeurs français... Et les graphistes, pardon, le terme n'est pas utilisé, mais en tout cas les graveurs de caractères continuent à utiliser une typographie qui doit beaucoup au monde du XVe et du XVIe siècle. En gros, c'est une typographie qui est héritée d'Aldomanus, le Vénitien, et puis qui a été retoilettée par Garamond, Claude Garamond. En gros, je simplifie volontairement, mais la lettre aldine revisitée par le Garamond, elle est pratiquée pendant tout le XVIIe siècle. Dans les années 1690, il y a deux mouvements parallèles. Il y a, à l'initiative de Louis XIV et surtout de Colbert, de lancer une grande encyclopédie des arts et des métiers, exposer l'expertise du royaume de France sur différents territoires, le textile, la construction navale, et puis, bien évidemment, ces métiers dans lesquels l'expertise est extrêmement exigeante, qui sont les métiers du livre, la gravure de caractère, l'imprimerie, la typographie, etc. Et donc, il y a un certain nombre d'hommes qui se rassemblent pour exposer les enjeux de la gravure de caractère et de la typographie. Le mathématicien Fillot des Billettes, l'abbé Jaujon, il y a aussi un bibliothécaire, l'abbé Bignon, qui est bibliothécaire du roi. Il y a quelqu'un que... j'aime beaucoup aussi, Philippe Grandjean, qui est un graveur de caractère, c'est lui l'artisan, l'artiste. Et donc l'idée cristallise et se développe de profiter de cette vaste enquête pour réformer la typographie royale, hein, dessiner un caractère qui aura le mérite de l'efficacité, de la clarté et dont le standing, si je puis dire, sera tout à fait propice à porter le message royal et à porter la littérature et les sciences de la monarchie.
Peut-être un petit peu trop rigide, un petit peu trop droit.
Oui, mais justement...
Je fais toujours l'analogie, j'ai l'impression quand je vois quelque chose de rédigé en Romain du Roi, j'ai l'impression... de voir les jardins de Versailles.
Mais oui, parce que le modèle, c'est un modèle à la fois mathématique et épigraphique. Mathématique, pourquoi ? Parce que chaque lettre, désormais, va être dessinée à l'intérieur d'un damier, une espèce de carroyage constitué, si je me souviens bien, de 64 petits carrés. Chacun de ces 64 petits carrés étant lui-même divisé en 32 petits carrés. Et donc, c'est à l'intérieur de ce carroyage que la lettre, le Romain du Roi, va être dessinée. Et c'est la première fois qu'on a un carcan, une structure aussi orthogonale et aussi précise.
Moi, j'y vois l'invention du pixel.
Oui, oui, le découpage en parties carrées, les plus petits modules possibles.
Jukebox. Juif, jamais plus. K comme kidnapping. L comme laser, libération, le lendemain. M, c'est pour moi, naturellement. Et N, c'est pour le nouveau-né.
Dites-moi quelques mots sur Dido et peut-être après sur ce qui se passe aujourd'hui. Hein, parce que vous savez, bien sûr, vous savez qu'il y a aussi des polices... politique en quelque sorte aujourd'hui, par exemple la police Marianne. Hein.
Oui, absolument, une commande de l'Élysée.
Colonne de l'Élysée, ouais. En 2020.
Ouais, oui, absolument.
Hein, donc la police Macron.
D'une certaine manière, oui. Ben, c'est le signe, effectivement. Cette police est d'une certaine manière, non pas l'héritière, mais c'est un épisode de commande politique qui est à rapprocher de l'événement qui a contribué à la création du Romain du Roi à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Alors vous évoquez Dido, oui, on est en plein XVIIIe siècle. C'est surtout la deuxième moitié du XVIIIe siècle est un moment de néoclassique, entre guillemets, on le sait, dans les architectures, dans les arts en général, dans le mobilier. Et c'est le moment aussi où les typographes les plus exigeants, les plus créateurs, les plus créatifs vont dessiner un caractère encore plus rigoureux. Et là, le modèle de ce caractère, ça ne va pas être le signe manuscrit, ça ne va pas être la lettre gravée, ça va être le signe, la lettre épigraphique, la lettre telle qu'on pouvait la graver sur du marbre dans l'Antiquité. Et c'est pour ça que les caractères gravés par Bodoni à Parme ou par Dido et la famille Dido, grands imprimeurs éditeurs français de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, absolument. Ces caractères-là sont vraiment caractérisés par leur très grande orthogonalité et par leur très grande rigueur, au point qu'ils ont été rassemblés. C'est au XXe siècle, c'est du XXe siècle que datent les entreprises de classification des caractères, qui sont assez intéressantes d'ailleurs. C'est un moment assez formidable, mais il y a un personnage que j'aimerais citer parce qu'on vient de publier ses mémoires et puis c'est vraiment un grand bonhomme, Maximilien Vox.
Celui qui a essayé de mettre de l'ordre dans tout ça.
Voilà, il a essayé de mettre de l'ordre du classement. Il est aussi responsable, Maximilien Vox, de la marque de la collection M. Vous savez, les romans policiers chez Gallimard.
Revenons sur Dido. Est-ce que Dido avait un aspect politique ? Est-ce qu'il y avait une connexion entre la famille Didio et le pouvoir ?
Alors, je dirais dès avant l'Empire, parce que dès la Révolution française, dès la Convention, dès les années 1790, on a plusieurs graveurs de caractère, on a plusieurs hommes du livre qui ont clairement conscience du fait que la lettre de Dido, cette lettre rigoureuse, républicaine, entre guillemets, on le dit, qui renvoie à l'Antiquité romaine, voilà, elle est justement dénuée de toutes les fioritures de l'Ancien Régime. Hein, donc cette sévérité classique, attique, en quelque sorte, que l'on doit en fait à un mouvement esthétique qui est celui du néoclassicisme et qui date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, eh bien, est assumée par la Révolution française. On a un certain nombre de graveurs qui disent très clairement, notamment dans les préfaces avec lesquelles ils accompagnent les spécimens de caractères qu'ils vont diffuser, ils disent, ben voilà, cette typographie, elle est sobre, elle est verticale, elle est universellement lisible, il n'y a pas d'ornement, il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien de rococo, il n'y a rien de baroque, et puis on ne va pas multiplier non plus les petits petits ornements, les colifichets, etc., qui font très ancien régime. Et ensuite, l'Empire embraye, parce que l'Empire, effectivement, la typographie idéale de l'Empire français, c'est une typographie qui est celle des Didots.
Sans parler de, bien plus tard, l'Art Nouveau.
Oui, oui, oui.
Il y aura un peu en continuation de tout ça. Il n'y a plus aucun ornement.
Oui, oui, l'Art Nouveau, et puis un peu plus tard encore, surtout, je dirais, Étienne, dans la lignée du Baos, hein, qui a vraiment investi aussi le monde de la typographie, l'Art Déco, où là, on a tendance à privilégier des lettres linéales, c'est-à-dire des lettres dans lesquelles l'opposition entre les pleins et les déliés est très très limitée, voire inexistante, et dans lesquelles on n'a pas d'empattement. Hein, l'empattement, c'est ces espèces de petites barres transversales ou petits éléments décoratifs de forme triangulaire ou carrée, ou qui existent chez Garamond, qui existent aussi... Qui sont très beaux, mais la lettre linéale, on suppose qu'elle est plus moderne. Elle est plus future. D'ailleurs, Futura est l'une de ces lettres. Hein. On l'appelle Futura. Hein. Donc, elle est créée, je crois, Futura dans les années 1920 par un designer allemand. Et Futura, elle porte bien son nom. Il y a la volonté de s'affranchir de ces formes anciennes qu'étaient les empattements.
Oh, c'est une histoire célèbre. C'est la parano, la prison, la panique. Q, parce que qualité... vaut mieux que quantité.
Pour terminer notre conversation très rapidement, on pourrait citer les polices de caractère créées spécifiquement pour Obama et reprises par la suite par Donald Trump, qui s'appelle Gotham. Que je trouve que c'est assez intéressant de voir que, encore aujourd'hui, les graphistes, les designers ont parfaitement conscience du fait qu'une lettre peut porter un message politique. C'est impressionnant, non ?
Révolution. S est sexy et seul. Et T me terrorise. U pour usurpation. Et parce que tu es unique.
C'est impressionnant et rassurant. On dit aussi que les États-Unis, que l'Amérique du Nord sont un des pays dans lesquels la discipline et la pédagogie de la lettre, du tracé de la lettre, de la forme des lettres, voilà, a tendance à être abandonnée.
Dans le manuscrit, vous voulez dire ?
L'écriture simplifiée, l'écriture bâton. Hein.
Merci beaucoup.
Viol et vengeance et double V pour les westerns avec John Wayne. X, c'est la mystérieuse inconnue.
Est-ce qu'il y a une musique qui pourrait illustrer les lettres ?
Ah oui, vous me prenez de court, forcément.
Les Grecs, ce sont des jolis yeux déçus.
Alors j'espère que la chanson que j'ai choisie, Mon alphabet, par Amanda Lear, chantée en 1977, plaira à Yann Sordet. Elle est sous-titrée, prélude et fugue en do majeur, BWV 846 de Bach, bien sûr.
Les Z, mon cher ami, c'est pour le zéro que je te donnerai si tu n'apprends pas bien ce nouvel alphabet.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.